Ce soir, nous allons entendre Paul qui commente le chapitre 37 de Genèse. Joseph vendu par ses frères. Page 46. Quant à Jacob, il s'installa dans le pays de Canaan, là où son père avait séjourné. Voici la lignée de Jacob. À l'âge de 17 ans, Joseph prenait soin du troupeau avec ses frères. Le garçon était en compagnie des fils de Bilha et de Zilpa, les femmes de son père. Et il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit un habit de plusieurs couleurs. Ses frères remarquèrent que leur père l'aimait plus qu'eux, tous, et se mirent à le détester. Ils étaient incapables de lui parler sans agressivité. Joseph fit un rêve, et il le raconta à ses frères, qui le détestèrent encore plus. Il leur dit : Écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous étions en train d'attacher des gerbes au milieu des champs, et voici que ma gerbe s'est dressée et est même restée debout. Vos gerbes l'ont alors entourée et se sont prosternées devant elle. Ses frères lui dirent : Est-ce que tu vas vraiment régner sur nous ? Est-ce que tu vas nous gouverner ? Ils le détestèrent encore plus à cause de ses rêves et de ses paroles. Joseph fit encore un autre rêve et il le raconta à ses frères. Il dit : J'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père lui fit des reproches. Il lui dit : Que signifie le rêve que tu as fait ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ? Ses frères se montrèrent jaloux de lui, mais son père garda le souvenir de cela. Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph : Tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem ? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit : Me voici. Israël lui dit : Va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Un homme le rencontra alors qu'il errait dans la campagne et lui demanda : Que cherches-tu ? Joseph répondit : Ce sont mes frères que je cherche. Dis-moi donc où ils gardent le troupeau. L'homme dit : Ils sont partis d'ici. En effet, je les ai entendus dire : Allons à Dothan. Joseph partit sur les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et avant qu'il ne soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre : Voici le rêveur qui arrive. Allons-y maintenant. Tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendra ses rêves. Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit : N'attend-on pas à sa vie ? Il leur dit encore : Ne versez pas de sang. Jetez-le dans une citerne qui est dans le désert et ne portez pas la main contre lui. Il avait l'intention de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Devant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang ? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Lorsque Ruben revint à la citerne, il constata que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit « Il n'est plus là. Et moi, où puis-je aller ?» Ils prirent alors l'habit de Joseph, tuèrent un bouc et plongèrent l'habit dans le sang. Ils envoyèrent l'habit de plusieurs couleurs à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Jacob le reconnut et dit « C'est l'habit de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements. Il mit un sac sur sa taille et il mena longtemps le deuil sur son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusait d'être consolé. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Quant aux Madianites, ils vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, un officier du Pharaon qui était chef des gardes.
Ça fait plaisir de vous retrouver, plaisir de revenir à la même adresse, au même horaire, dans la même salle, comme si on avait le choix, comme si vous aviez le choix plutôt. Quel est l'intérêt de ce passage, de ce récit, d'entrer dans l'histoire de cette sombre histoire de famille? Vous avez entendu favoritisme, jalousie, tentative de meurtre sur l'un des frères, mensonge, vente en esclavage. Pourquoi s'intéresser à cette famille? Quand on y réfléchit, il y a tous les ingrédients d'un fait divers tragique qu'on pourrait lire dans les journaux. Et au-delà de ce chapitre, pourquoi consacrer 13 autres chapitres après cela? Verset chapitre 37 à 50. Eh bien, au verset 2, on entend un petit refrain qui structure tout le livre, et ça vaudrait la peine de le relever. Voici la lignée de, autrement dit, voici la descendance de, ici, Jacob. Voici l'histoire de sa famille, l'histoire de la famille de Jacob. Et si on retournait en arrière pour retrouver le refrain plutôt dans le livre, tout commence avec « Voici la descendance du ciel et de la terre », une manière de dire que Dieu est l'auteur du monde dans lequel nous vivons, l'univers, l'être humain, c'est lui au départ. Et malgré l'harmonie originelle, très vite les choses se gâtent, et on voit la première révolte des êtres humains contre Dieu au chapitre 3. Avec « Voici la descendance d'Adam », on entame une longue descente. Et même si on repart à zéro avec « Voici la descendance de Noé », on repart de plus belle. Et le symbole de cette révolte contre Dieu, on la retrouve au chapitre 11 avec cette tour de Babel où les êtres humains veulent devenir Dieu, se faire un nom. Mais le tournant, c'est le chapitre 12. Où c'est Dieu qui prend l'initiative. Dieu prend l'initiative de faire une promesse à un homme, promesse de rédemption à un Abraham, un projet en faveur de l'humanité. Il promet de faire de lui une grande nation et à travers cette nation de bénir toutes les nations. Il le promet à lui, mais aussi à son fils Isaac et à son petit-fils Jacob. Et on en revient à la question de départ. Pourquoi s'intéresser à cette famille-là? Eh bien, voici l'enjeu. Est-ce que Dieu est vraiment en mesure d'accomplir son projet de rédemption? Est-ce qu'il est vraiment en mesure de bénir tous les peuples de la terre s'il doit partir de cette famille-là? Quand on voit l'ambiance familiale, c'est loin d'être gagné. Et pourtant, l'enjeu est là. Si Dieu arrive à sauver cette famille, C'est qu'on peut espérer, en effet, qu'il peut sauver à grande échelle. Et la question, elle nous concerne aussi. Elle nous concerne aussi. En réfléchissant, on peut tous retrouver ces traces de favoritisme, de jalousie, de mensonge dans nos vies, dans nos familles. Quant à vouloir tuer un frère ou une sœur, la vendre en esclave, peut-être qu'on est d'accord, ce n'est pas dans toutes les familles, heureusement. Mais d'autant plus, la démonstration, elle aura tout son sens si Dieu peut opérer une rédemption dans cette famille-là. Pour parcourir ce texte, je vous invite à suivre le plan suivant, la famille de rêve, dans les versets 1 à 11, la destruction des rêves, et versets 12 à 36. La famille de rêve, en début d'année, plusieurs médias sont revenus sur une information qui faisait état qu'un tiers des divorces, se font juste après Noël, juste après les fêtes. Et une conseillère conjugale qui était interrogée l'explique de cette façon, il y a une pression forte pour que tout se passe bien, mais la réalité démontre le contraire. Un médiateur conjugal exprime ainsi, on attend beaucoup de ce moment, il impose le devoir d'être dans la joie, mais lorsqu'à l'intérieur bouillonnent des vieilles rancœurs, ce décalage peut tout faire exploser. Pas question de divorce dans notre texte, mais vous sentez l'odeur de poudre. Prenez simplement le verset 2, le garçon, et là c'est Joseph, était en compagnie des fils de Bila et de Zilpa, les femmes de son père. Les enfants de Jacob sont le fruit d'une compétition farouche entre les deux femmes de Jacob, qui sont deux sœurs, Léa et Rachel. On trouve cela dans les chapitres 29 et 30. Et chacun des noms des enfants renvoie à cette compétition entre ces deux femmes. Et la mention des servantes ici rappelle que même les servantes ont été mises à contribution pour faire des bébés pour l'une ou pour l'autre. Comme s'il n'y avait pas assez de compétition dans la famille, Jacob fait preuve de favoritisme. Lui qui a souffert du favoritisme de son père vis-à-vis de son frère, il est en train de reproduire la même chose avec Joseph. Pourquoi le favoritisme de Jacob ici? Eh bien, il est dit ici qu'il l'a eu dans sa vieillesse. Est-ce que c'est aussi parce qu'il l'a eu de sa femme préférée, Rachel? Est-ce que c'est parce que Joseph lui rapporte les mauvaises actions de ses frères? Peut-être plusieurs éléments à la fois. Et comment montre-t-il ce favoritisme? Ben, en offrant à Joseph un vêtement, ici, de plusieurs couleurs. Le terme traduit de plusieurs couleurs peut en fait être traduit dans d'autres traduction par brodé ou princier, en tout cas un vêtement d'honneur. Et il semble y avoir plus qu'un traitement de faveur ici en faveur de Jacob. L'expression se retrouve plus loin dans la Bible pour Tamar, la fille du roi David. C'est au minimum un vêtement d'honneur. Et une des questions qui va se poser dans les chapitres qui viennent, c'est qui va avoir le droit d'aînesse? Qui va en quelque sorte régner sur ses autres frères? La question s'est posée pour Jacob et Ésaü, elle se pose maintenant pour ses 12 fils. Et dans la compétition, il y en a qui sont éliminés d'office. Ruben, l'aîné, a couché avec une des concubines de son père, éliminé. Siméon et Lévi viennent ensuite dans l'ordre, mais ils sont les auteurs d'un massacre décrit au chapitre 34, éliminés. Et quel est le meilleur prétendant? Eh bien, pour Jacob, c'est Joseph. Et on peut comprendre là le vêtement qu'il lui offre. Dans le même temps, on va voir que l'auteur s'intéresse aussi à Judas. Alors pour le moment, on va garder le suspense, garder ça pour la suite. Mais revenons à l'ambiance familiale et on relève l'animosité qui grandit. Au fil des phrases, on entend cette hostilité qui grandit vis-à-vis de Joseph. Ce n'est pas seulement parce que Joseph rapporte les mauvaises actions de ses frères, c'est pas seulement parce qu'il reçoit le favoritisme, il est le favori de son père, c'est aussi parce qu'il leur raconte ses rêves. Et dans son premier rêve, vous l'avez entendu, Joseph raconte comment il voyait ses frères ramasser des gerbes et ces gerbes se prosternent devant la sienne. Et ses frères le détestent de plus belle. Les frères ont bien compris, est-ce que tu vas régner sur nous? Est-ce que tu vas nous gouverner? Ils ont bien compris le rêve. Deuxième rêve, et cette fois-ci des étoiles, Jacob, sa mère sont concernés. Tous se prosternent devant Joseph dans son rêve. Et quel est le résultat? Ses frères le détestèrent encore plus. Et vous entendez le contraste? Le mot frère, il revient 21 fois. Mais à chaque fois, on entend ce refrain. Et ils le détestèrent. Et la haine grandit. Ils sont unis par un lien familial, mais divisés par la haine. Que penser de ces rêves? À cette époque, on constate que c'était un moyen de communication divine et de prédiction. On en trouve deux ici, on en retrouvera deux pères par la suite encore. Comme si, en venant par deux, ils attestent de leur véracité. Ces rêves attestent leur authenticité. Et sans être nommé dans le récit, on trouve en quelque sorte Dieu qui dirige les événements. Le narrateur nous dit que Jacob garda le souvenir de ses rêves. Et nous, les lecteurs, on est invités, nous aussi, à garder le souvenir de ses rêves. On a peut-être des hauts et des bas que vont vivre Joseph. On a déjà dans ce récit toutes sortes d'émotions qui se vivent de la part des frères vis-à-vis de lui. Mais il va nous falloir garder à l'esprit ces deux rêves qui nous sont annoncés au départ. Et nous-mêmes, on n'a peut-être pas des rêves. On n'a peut-être pas fait des rêves comme Joseph. Mais est-ce que de la même façon, il y a certaines paroles qui nous sont dites au départ et qui doivent, en quelque sorte, être en trame de fond de tout ce qu'on va vivre? Moi, je pense, par exemple, à des paroles comme dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 et 17. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai que même si notre être extérieur se détruit, même si on avance progressivement vers la mort, notre être intérieur, si on est croyant, disciple de Jésus, se renouvelle de jour en jour? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai que si on devait faire le poids ou là, essayer de mettre sur une balance les difficultés que l'on rencontre maintenant et la gloire à venir, il y aurait quelque chose d'incomparable? Elles sont légères, les difficultés du présent. Le poids de gloire, il est énorme. Est-ce que c'est vrai, ça? Selon l'apôtre Paul, on devrait lire cela en trame de fond de notre vie, un peu comme Joseph doit vivre tout ce qu'il vit avec en arrière-plan ses rêves. La destruction des rêves, c'est le deuxième point, dans les versets 12 à 36. Une question qui divise un peu les commentateurs, c'est quelle évaluation faire de Joseph? On a d'un côté des personnes qui voient Joseph comme un jeune homme immature qui est en train de rapporter constamment ce que font ses frères, un jeune homme arrogant qui raconte ses rêves et qui suscite encore plus d'hostilité vis-à-vis de lui, accentuant la haine. Et de l'autre, on a des commentateurs qui disent « Non, on a affaire à quelqu'un d'intègre et la preuve en est, c'est qu'il ne s'associe pas aux mauvaises actions de ses frères et que son père peut lui faire confiance. » Ceci avance aussi que dans la suite du récit, on a la démonstration, on a d'un côté les frères qui agissent mal et qui complotent contre lui, et de l'autre, on a un homme intègre qui restera intègre. Et pour être honnête, c'est difficile de faire l'évaluation de Joseph. C'est difficile. Et dans un sens, la question, elle n'est pas cruciale. Elle n'est pas cruciale. Parce que même si Joseph retient toute notre attention, si tout le monde est focalisé sur Joseph, c'est pas lui qui tient la clé du récit. C'est pas lui qui tient la clé du récit. Est-ce que ses rêves vont se réaliser ou pas? Est-ce qu'il va y avoir une rédemption ou pas? Celui à qui on devrait regarder, c'est celui qui est en coulisses de cette histoire, c'est Dieu. Est-ce qu'il va réaliser ses rêves ou pas? Est-ce qu'il va opérer cette rédemption ou pas? Prenez le dialogue qui nous est donné entre Jacob et Joseph. Ce n'est pas Joseph qui prend l'initiative. C'est Jacob qui dit qu'il doit aller prendre des nouvelles, à la pêche aux nouvelles pour ses frères. Et c'est lui qui lui dit où aller, à Sichem. Joseph se met en route, mais il ne les trouve pas. Et l'auteur nous dit qu'il errait dans la campagne de Sichem, et là, il croise quelqu'un qui lui dit « Que cherches-tu ?» Là encore, ce n'est pas lui qui prend l'initiative, c'est quelqu'un qui engage la conversation. Joseph répond « Mais ce sont mes frères que je cherche, dis-moi donc où ils gardent le troupeau. » Et là, il se trouve que cet homme avait entendu une conversation des frères qui se rendent à Dothan. Et donc Joseph, sur la base de son information, va se rendre à Dothan. Et en suivant la trace de Joseph, on devrait s'inquiéter pour lui. Petit à petit, on réalise qu'il s'éloigne de la protection de son père. Sichem, ça rappelle quoi ? Ben, ça rappelle un massacre que ses frères ont commis quelques 2 ans plus tôt. Et il va encore aller plus loin que Sichem, seul, vulnérable. En arrivant à Dothan, loin de chez lui, il est aperçu par ses frères. Et qu'est-ce qu'ils lui disent ? Voici le rêveur qui arrive. Ça pourrait sonner comme une simple blague, mais quand on entend la suite, on réalise qu'un complot est en train de se préparer. Allons-y maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses rêves. Quel est le but ? Eh bien, c'est détruire ses rêves insupportables. Détruire ses rêves. Ruben fait une contre-proposition. Ne le tuons pas nous-mêmes. Et il a l'intention par la suite de le récupérer dans la citerne où il propose de le mettre. Ruben ne semble-t-il pas porter la responsabilité de l'acte d'un meurtre ? Est-ce qu'il essaie aussi de se racheter vis-à-vis de son père ? Peut-être. Mais son plan ne sera pas suivi jusqu'au bout. Si on le met dans la citerne, effectivement, quand Joseph arrive et on lui enlève sa fameuse robe, on le met dans la citerne, les choses vont se passer autrement. Et imaginez la scène. La scène, elle est terrible quand on y réfléchit. Ils viennent de prendre leur frère et de le mettre dans une citerne. Ils sont en train de réfléchir à la possibilité de le tuer. Et après l'avoir mis dans la citerne, après lui avoir enlevé sa robe, à table, ils vont prendre un repas. C'est terrible comme situation. Plus tard, ses frères se souviendront avoir entendu Joseph leur demander d'être épargnés. Mais là, sur le moment, la haine, elle est telle qu'ils ne veulent pas entendre Joseph. Prière de ne pas déranger, il mange. Et en pensant à cette situation, on est peut-être en train de se souvenir d'un moment sordide que nous avons vécu. D'un moment où le mal semblait régner. Possible aussi qu'on se souvienne du mal dont on a été capable et qui, avec le recul, nous paraît impensable, irresponsable, inacceptable. Qu'est-ce que Dieu peut faire d'un moment sombre comme celui-là ? Qu'est-ce que Dieu peut faire d'un moment où le mal semble régner ? Qu'est-ce que Dieu peut faire de ça ? Est-ce que Dieu, à ce moment-là, a lâché les rênes de l'histoire ? Est-ce qu'il ne régnait plus à ce moment-là ? On serait tenté de le penser. Mais avant de tirer les conclusions, poursuivons le récit. Joseph se trouve toujours dans la citerne et une autre opportunité se présente. En mangeant, les frères aperçoivent des marchands, Madianites, Ismaélites, en fait ça renvoie à la même tribu, qui se rendent en Égypte. Et cette fois-ci, c'est Judas qui fait une proposition. Dans la même veine que Ruben, c'est éviter le meurtre, mais là, plutôt vendre Joseph à ces marchands. Le sang n'a peut-être pas coulé, mais notez quand même la violence, vendre son frère, se faire de l'argent sur le dos de son frère. Joseph est donc emmené en Égypte par ses marchands. Ruben, qui semble s'être absenté pendant ce temps-là, revient et découvre que Joseph n'est plus là. Et entendez sa réaction, il déchire ses vêtements de consternation et il s'écrie « Il n'est plus là, et moi, où puis-je aller ?» Et en écoutant ces paroles, on réalise qu'il n'est pas tant concerné par le sort de Joseph que par son propre sort. « Et où puis-je aller ?» Et si on commençait par aller chercher Joseph ? Mais c'est son sort qui l'inquiète. Et pour que le complot fonctionne, il va falloir garder un secret. Pas un secret de famille, un secret entre frères, parce qu'il va falloir mentir au père. Ils prennent le vêtement de Joseph, le trempent dans le sang d'un bouc et ils l'envoient à leur père avec ce message. « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais donc si c'est l'habit de ton fils ou non. » Et l'histoire se répète, n'est-ce pas? C'est avec la peau d'un bouc que Jacob a trompé son père. C'est avec un bouc que ses fils vont le tromper. Mensonge de Jacob, mensonge de ses fils. Qui a tué Joseph? Une bête féroce, certainement. Mais nous, les lecteurs, on sait très bien que la férocité, elle est chez les frères de Joseph. Ils ont voulu détruire les rêves de Joseph. Et tout semble avoir fonctionné jusqu'au secret bien gardé. Ils arrivent même à se mettre dans la peau des consolateurs auprès de leur père. Mais Jacob est inconsolable. Les versets 34, 35, 36 nous disent qu'il est inconsolable. Peut-être qu'ils avaient espéré en tuant Joseph que leur père les aimerait plus. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ils ont un père de plus en plus triste, de plus en plus amer. Et le chapitre se termine avec Joseph qui lui arrive en Égypte. Il est vendu à un officier du pharaon Potiphar. Qu'est-ce qu'on retient de cette sombre histoire de famille? Vous avez remarqué les émotions fortes qu'on a tout au long du récit, la jalousie, la rivalité, la haine, qui grandissent dans des proportions extrêmes. Vous avez remarqué la volatilité de la situation? Et si on le tuait? Et si on le laissait au fond d'une citerne? Et si on le vendait? On a l'impression que ça peut partir dans tous les sens. Mais malgré les émotions fortes et les propositions, on doit se souvenir des rêves de Joseph. Il faudra lire le récit dans son ensemble pour bien le voir, mais Dieu est à l'œuvre dans les coulisses. Les frères de Joseph voulaient détruire ses rêves. Ils sont précisément en train de les réaliser. Ils voulaient détruire les rêves de Joseph. Ils sont en train de les réaliser. Autre soir, en rentrant, je crois que d'ailleurs c'était un dimanche soir, j'ai vu la fin de Retour vers le futur. Alors, je ne sais pas s'il y a des jeunes vieux comme moi dans la salle, peut-être qu'ils ne connaissent même pas Retour vers le futur, mais... Il y a Marty, le héros, qui retourne en arrière au temps où ses parents se fréquentaient, ou ne se fréquentaient pas encore, en fait, avant qu'il ne tombe amoureux. Et en fait, son retour enraye un peu la machine du temps, et donc il doit régler cette affaire, faire en sorte que ses parents se rencontrent. Mais en plus de cela, il va être pris en grippe par Biff. Biff, c'est la brute épaisse du lycée. Il cause des ennuis à tout le monde. Et comment va venir le dénouement ? Eh bien, de manière surprenante, c'est Biff qui cause des ennuis à tout le monde, qui va permettre le dénouement. Le pire ennemi dans l'histoire, c'est lui qui va permettre aux parents de Marty de tomber amoureux par la suite de se marier. Enfin, je vous laisse découvrir, si jamais vous voulez. Je vous ai tout dit, en fait. Et ici, on découvre un peu pareil, que c'est l'hostilité des frères, la haine des frères, qui est en train de faire réaliser les rêves de Joseph. C'est en allant en Égypte que par la suite Joseph va pouvoir sauver toute une famille de la famine qui doit venir. Et vous reconnaissez ici une trajectoire de Joseph qui erre vers Sichem, si aléatoire, et pourtant où le timing est si précis. Il passe au moment où cet homme passe, cet homme qui se trouve avoir été là au moment où il y a eu une conversation ou peut-être un morceau de conversation entre ses frères qui ont dit qu'ils allaient à Dothan. Le timing est parfait, ni trop tôt, ni trop tard. Pareil avec les marchands ismaélites, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Hop, des marchands, et si on le vendait? Ils viennent au bon moment. Remarque quand même sur ce qui se passe, sur la responsabilité des frères, on n'est pas en train de dire ici que Dieu est... relativise le mal, cela n'enlève en rien la gravité et la culpabilité de ce qu'ils commettent. Il ne s'agit pas non plus de dire oh, le mal peut arriver, ce n'est pas grave. Ce récit, tout en disant la gravité, et l'auteur veut nous dire la gravité des faits, veut montrer que Dieu reste souverain, même dans ce moment sombre de l'histoire. Il reste souverain, même dans ces moments-là. Et on découvre une trame qu'on redécouvrira plus loin dans la Bible, que ce soit Esther face à la menace d'un génocide, que ce soit les chrétiens persécutés dans le livre des Actes. Même lorsque le mal fait rage, Dieu reste souverain pour opérer une rédemption, prendre soin de son peuple, permettre à l'évangile de se répandre. Dieu reste souverain. Et cette trame, on la retrouve dans la plus grande rédemption, celle vers qui ce texte pointe. Vous avez peut-être déjà fait les parallèles, non? Les parallèles en écoutant qui a été désigné comme celui qui doit régner? Qui est victime d'une hostilité croissante contre lui au fil des lignes? Qui est l'objet d'un complot de meurtre? Qui va être trahi par un proche? Qui va être vendu pour de l'argent? Qui verra son habit lui être enlevé? Et là, la mort ne lui sera pas épargnée. On a l'impression qu'il est à la merci de tous ceux qui s'en saisissent, le Sanhédrin, Pilate, Hérode, la foule. Et dans la perspective humaine, Jésus a été lâché par tout le monde, victime des émotions, des cris, de la violence, victime du mal sous sa forme la plus vile. Et pourtant, Dieu est en train d'accomplir son projet de rédemption à travers lui, pour des traîtres comme nous, pour nous racheter, pour nous réconcilier à Dieu. Comment est-ce que cette histoire peut nous encourager? Eh bien, elle peut tout simplement mettre en évidence la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre vie. La famille de Jacob ne méritait pas plus une œuvre de rédemption dans leur famille, dans leur vie, que nous ne la méritons. C'est bien la grâce que Dieu se plaît à opérer. Et cette histoire, elle nous permet de diriger nos regards vers la rédemption par excellence, la plus grande rédemption de l'histoire. Oui, Dieu est à même de sauver des humains tels que nous, capables du pire. Et ce récit nous invite aussi à avoir confiance en la souveraineté de Dieu, même dans les moments les plus sombres, même dans les moments où on a l'impression qu'il a lâché les rênes de l'histoire. Même ces moments-là sont dans sa souveraineté. Dieu n'est pas responsable du mal, mais il sait comment faire concourir toutes choses pour notre bien ultime. Amen.